Oui, bonjour monsieur, parce que monsieur vient de me voir, je suis écrivain public hein, à Aulnay-sous-Bois, et monsieur vient me voir pour me demander d'écrire un courrier à la préfecture.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Écrire le quotidien, la vie, la ville, écrire aux impôts, à la sécurité sociale, son CV sur papier ou sur écran, écrire avec les mots des autres, pour les autres. Voilà ce que raconte Anne Chemarin dans son journal d'un écrivain public joliment intitulé « De vie en ville ». Une année au service des autres entre septembre 2017 et octobre 2018 au bout du RER B. Bonjour Anne Chemarin.
Bonjour Pascal Pardoux.
Les écrivains, on sait ce que c'est, surtout en cette période de prix littéraire, ils tiennent le haut du pavé, mais un écrivain public, c'est plus discret, c'est moins médiatique. Comment vous définissez cette fonction ?
Oui, effectivement, c'est écrivain public. Hein. Ce n'est pas écrivain, il y a une grosse différence. Comment je définirais cette fonction ? Alors, je vous explique. Je travaille dans un centre social, 3 jours par semaine, et je n'anime de ce qu'on appelle les permanences administratives, c'est-à-dire que j'accueille les gens, enfin on les appelle les habitants, sur rendez-vous et ils viennent me confier leurs problèmes et ils viennent me demander leur aide, voilà, mon aide, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir que quand les gens arrivent, ils ont la parole, mais ils n'ont pas forcément l'écrit. Et mon travail consiste à faire justement passer cette parole dans le registre de l'écrit. Alors, voilà. Ils se heurtent en général à un double obstacle dans la vie. C'est pour ça qu'ils viennent me voir. Ils n'ont pas l'écrit. Ils n'ont pas les moyens de restituer leur parole par écrit. Et c'est ce qu'ils me demandent, moi, de traduire. Voilà.
Donc, écrivain public, c'est un métier.
Oui.
Et il y a des formations universitaires pour ça. Vous avez suivi une formation à la Sorbonne Nouvelle, par exemple.
Alors, l'écrivain public n'est pas un métier réglementé. Moi, j'ai suivi une formation à la Sorbonne Nouvelle, une formation d'écrivain public, où on nous apprend justement, alors écrivain public en centre social, mais pas que. Mais enfin, moi, j'ai choisi cette voie, mais écrivain public, c'est une activité très, très large. Hein,
mais est-ce que c'est un enseignement littéraire pour bien faire des phrases, ou plutôt plus juridique, plus administratif, psychologique parfois.
De tout. On a effectivement un enseignement sur toutes ces matières, en psychologie, en littérature, en droit. Parce que le droit, là, c'est très important. Bon, moi, j'ai une petite aide au départ parce que j'ai une formation de juriste et j'ai été journaliste avant, sur cette niche juridique. Et ça, c'est une aide très, très précieuse parce que, quand on parle d'administration, c'est quand même du droit. C'est du droit. Effectivement.
Alors, vous avez fait un livre de cette expérience, un livre qui fourmille de portraits d'hommes et de femmes qui, de fait, sont écartés de la société. Vous dites que c'est un journal qui est un rapport de l'heure qu'il est,
oui,
établi au présent.
Présent, oui.
Ça veut dire quoi exactement ? Que c'est une photographie de la société ?
Oui, c'est peut-être ce qui arrive dans mon bureau, c'est le tumulte du réel, du présent. Voilà. Et on me demande... très souvent, j'ai des gens en colère, ils arrivent, c'est un flot de paroles. Et j'écoute. D'abord, j'écoute ce qui se passe et c'est un tumulte. Et après, il faut m'extraire de ce champ de bataille et puis passer dans le registre de l'écrit. Là, on apaise les choses.
Voilà. Un chiffre, juste avant de parler des mots, c'est un chiffre de l'Institut National de la Statistique, ou plutôt 7% de la population en France est en situation d'illettrisme, ce qui représente à peu près 2,5 millions de personnes. Cela ressemble à votre constat, Anne Chemarin ?
Ah, de mon petit promontoire, oui, effectivement. Bon, des gens, alors il y a des gens qui ne savent pas parler en français, qui ne connaissent pas la langue française. Donc là, j'ai besoin d'un traducteur éventuellement. Et des gens qui savent lire, écrire, mais ou qui savent plus en fait écrire. Voilà, c'est ce que j'aperçois. Ou alors qui n'ont plus suffisamment confiance en eux pour écrire. Mais c'est le problème de ce que je vous disais, la restitution des choses. Ils savent pas. Ils ne savent pas s'emparer de l'écrit. Ils me disent, bon, non, mais vous ferez ça très bien parce que vous avez les mots. Voilà, vous avez les mots pour réclamer à notre place, pour écrire à l'administration, à notre place. Voilà. Et dans le langage de l'administration.
Dans le langage administration, parce qu'en effet, il y a une langue très particulière qui s'appellerait le français administratif. Enfin, qui s'appelle d'ailleurs le français administratif.
Oui, oui.
Alors, il y a donc les...
Qui
les
évolue gens, d'ailleurs, hein, qui est une langue qui évolue, parce que...
Mais voilà. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens?
Je ne veux pas parler de sabir, mais parce que c'est peut-être trop loin. Mais enfin, dans le bon sens, pas très compréhensible en réalité. Peut-être ça, oui.
Alors, il y a ceux qui maîtrisent difficilement les mots, et puis il y a aussi les, ce qu'on appelle les électronistes, c'est-à-dire ceux qui sont illettrés numériques, qui ne savent pas se servir du numérique. Alors, j'ai l'impression que dans le portrait que vous faites de vos habitants, il y a ce profil-là.
Alors, oui, voilà. Mais c'est le deuxième obstacle auquel se heurtent les gens. Alors, le premier, c'est l'écrit. Et le deuxième, c'est qu'ils ne possèdent pas forcément les outils numériques pour communiquer. Alors là, c'est le deuxième problème, parce que maintenant tout passe par Internet, les démarches administratives sont dématérialisées. Alors ça implique quoi? Ça implique d'avoir un ordinateur ou un smartphone, ça implique qui marche, qui fonctionne, hein, voilà. Ça implique d'avoir une bonne connexion Internet, ça implique de comprendre un peu aussi les formulaires et puis le langage de l'administration. Mais il faut passer par le canal du numérique. Et on est canalisé, voilà. Et ces gens-là, les habitants qui viennent me voir, n'ont pas forcément les bons outils pour se faire.
Mais grâce à vous, ces gens-là, ou les habitants...
Je suis miraculeuse, oui, tout à fait.
Oui.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes miraculeuse, parce que sinon je vais vous toucher. Mais en tout cas, peuvent revenir dans la société, faire société, revenir dans un quotidien et dans une vie normale, avec des guillemets.
Non, mais je disais miraculeuse, c'est une plaisanterie, parce que les gens qu'on y arrive sont vraiment contents et me remercient. Alors que moi, mon souci, ça serait justement qu'ils soient autonomes. Parce que là, je sers de béquille. Pour eux. Du coup, ils ne sont plus autonomes. Et moi, mon but, ça serait qu'ils soient autonomes, qu'ils s'emparent de ces outils correctement. Alors, quand j'ai le temps, je leur montre, vous faites comme ci, comme ça. Mais le plus souvent, les choses vont vite et puis ils ont besoin aussi d'une réaction rapide.
Ouais. Anne Chemarin, grâce à vous, une porte s'ouvre, une humanité se révèle. Vous allez nous raconter ces échanges, ces rencontres, parfois. Mais après avoir écouté Pipo.
Etc, etc. Bouche B, plus besoin de parler. Quand le regard tue et que l'on s'avoue vaincu, les deux. Bouge tes pupilles juste un peu. Je veux savoir si dans mes yeux tu lis mes vœux. Couvre tes épaules, le froid les frôle. J'aime ce vent qui fait que ton parfum m'effleure. Ouvre ton bouquin, de lire ça te va bien. Les pages témoignent que tous sont tes mains. De là, t'es là, cela prêté, t'es là, cela côté de l'instant. T'es cela capté, que la pensée dans ces moments met la parole sensée de côté. Etc. Cheveux, je vois que tu sais que je veux que tu sois intimidé devant moi. Tes gestes sont sommaires, ton index en dit long. Il enroule tes pointes qui se bouclent de surcroît. Tu changes de pose, tes jambes se croisent. Très grande à L2, mesure une toise. Tu parles toute seule, susurre des mots. Je préfère tes césures, regarde-moi. Tentons de gommer nos défauts, la faiblesse ne rime pas avec faute. Si tu es maladroite, je serai gauche. Tes moindres failles font que ton image n'est pas fausse. Faire le premier pas ou en rester là, déjà deux fois que tu lis ce best-seller. J'ai l'impression que les heures sont des secondes. J'aimerais avoir l'heure de te correspondre, hélas. Je ne suis pas la tasse qui touche ton gloss. À la même place, je serai demain, au moins, pour te voir m'observer de loin. Ce sera toujours bien et déjà mieux que rien.
Pipo sur RFI avec ce titre Césure qui est aussi celui de son nouvel EP. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, Anne Chemarin, mais dans ce nom de Pipo écrit avec deux H, c'est une anagramme de hip-hop.
Ah,
Un jeune est-il jamais venu vous trouver, vous, Anne Chemarin, écrivain public, pour écrire une chanson, du rap, du hip-hop?
Bon, malheureusement. Vous faites un œil triste. Malheureusement, non. J'attendais aussi les lettres d'amour.
Mais
et
oui,
puis non, même pas.
Jamais
non, non.
Une lettre d'amour.
Non, jamais de lettres d'amour. Des lettres, parfois d'un peu de haine, oui, adressées à quelqu'un. Alors là, bon, faut écouter la personne, peut-être arrondir un peu les angles et elle est bien pour pouvoir exprimer. Mais sinon, non, 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 on reste.
Mais vous pouvez écrire une lettre de haine, enfin, ou de reproche, ou.
Ah oui. Oui, c'est la personne, moi je porte la plume, c'est la personne vient me demander d'écrire, je l'accompagne dans cette écriture. Mais bien évidemment, alors c'est délicat parce que forcément j'interviens aussi en lui disant mais êtes-vous sûr que, bon, est-ce que les termes là seront bien choisis? Parce que comment va lire, comment ça va être reçu, comment, voilà, est-ce que vous voulez vraiment alimenter le conflit ou est-ce que vous voulez l'apaiser? Mais là, j'ai pas grand-chose à dire non plus. Voilà.
Mais c'est quand même dommage pour les lettres d'amour, parce que c'est compliqué d'écrire une lettre d'amour, surtout en 2021.
Bah oui, il suffit de savoir écrire un texto, non?
Mais voilà, ça se résume à un texto, alors que la belle lettre d'amour, on va y penser, je vais y penser.
Oui, pensez-y.
Exemple de votre quotidien, Anne Chemarin, l'envoi d'une lettre au tribunal administratif, en effet, c'est moins glamour, c'est une femme qui a besoin de justifier de la taille de son logement pour pouvoir héberger ses enfants.
Alors, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir reconsidérer votre décision du 26 juin 2019 par laquelle vous rejetez mon recours au titre du DALO au motif, notamment, de l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires du 22 février 2019, de l'absence de preuve de la suroccupation du logement, de défaut justificatif de la charge des enfants mineurs. Pour ces derniers, leur père étant décédé le 14 janvier 2019, une procédure de garde partagée avec leurs grands-parents est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales. Mais dans tous les cas, je dois accueillir décemment et loger mes deux enfants à mon domicile.
Par contre, là, vous avez oublié d'ajouter un enfant. Donc, il y a mon conjoint, moi-même, mon bébé.
Oui, de 3 mois.
Voilà, et j'ai un petit garçon aussi de 3 ans.
Ah oui.
Bientôt 3 ans, et les deux grands.
Ah oui, pardon. Alors, mon conjoint, moi, voilà, mon bébé, voilà, mes deux enfants,
et
plus...
Voilà. Voilà.
Un exemple parmi d'autres, bien
oui,
sûr. Vous avez beaucoup, beaucoup comme ça de lettres de recours,
oui,
à écrire,
oui,
Anne,
oui, oui,
Chemarin.
Oui, oui,
les hommes, les femmes sont, semble-t-il, assez démunis, ce qu'on disait, face, oui, à l'administration ou à la loi. Est-ce que ce sont des histoires graves, souvent? Parce que là, quand même, il s'agit d'une famille qui peut ou pas héberger ses enfants.
Oui, c'est grave. Parce que, bon, et puis un dossier en amène un autre. C'est une situation globale qu'il faut prendre. Là, si je me souviens bien, il s'agissait d'un dossier, ce qu'on appelle les fameux dossiers de DALO. Alors bon, tout le monde connaît ça parce que c'est les, surtout en Seine-Saint-Denis, les gens font des demandes de logement social et les demandes doivent être renouvelées tous les ans. Au bout d'un certain nombre d'années, s'ils n'ont toujours rien obtenu, on peut faire ce qu'on appelle un recours DALO. Alors ils pensent généralement que c'est un sésame, recours DALO. En réalité, le DALO, c'est une commission DALO. Les bailleurs se réunissent avec l'administration et le préfet et ils décident, ben, telle personne est en urgence, telle personne doit être logée en urgence. Ces gens-là ont un logement indécent, c'est-à-dire ils réexaminent les situations. Donc moi, quand je monte un dossier DALO, je fais un dossier DALO, qui est un dossier assez épais, hein, formulaire CERFA et tout, pendant un moment, il y a un argumentaire. Donc il faut plaider, en fait. Il faut arriver à réunir tous les éléments qui sont de nature à convaincre la commission que telle personne doit être relogée.
Alors, on que diriez-vous des gens que vous voyez, qu'ils sont dans un état désespéré, dans une situation désespérée, ou qu'ils espèrent justement beaucoup de vous et de la société, parce que vous êtes à un endroit où on perçoit plus nettement la société que devant un écran de télévision ou derrière une radio?
Oui, bien sûr. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le tumulte du réel, du tumulte de la vie, là, de la vie qui arrive. Et c'est très sensible parce qu'il y a des situations effectivement dramatiques. Alors, je leur dis que ce n'est pas désespéré, mais dramatique. Bien évidemment, parce que là, par exemple, cette dame, par ailleurs, elle avait des dossiers devant le juge aux affaires familiales, elle avait perdu son mari, elle avait des problèmes de logement, et puis c'est enchaîné, tout ça. Donc, c'est pour ça que les personnes viennent me voir plusieurs fois, pour plusieurs dossiers. Et moi, je fais l'unité aussi.
Dans ce journal d'un écrivain public, Anne Chemarin, vous racontez des histoires, vous racontez les habitants que vous voyez, que vous aidez, vous racontez aussi vos voyages en RER pour aller jusqu'en Seine-Saint-Denis. Et il y a un petit récit qui m'a touché. Un homme, un matin, dans le RER, tout d'un coup prend la parole sur un air de rap et dit « j'ai mal à la vie ».
Oui.
Ils ont tous mal à la vie, ce que vous voyez.
Ah, que voulait dire cet homme en disant j'ai mal à la vie ? En même temps, il le dansait, il le chantait. Hein, mal à la vie, oui, c'est une vie qui va mal très souvent. Oui, très souvent. Et vous moi, justement, mon rôle, c'est aussi d'aider à ce que c'est étayer pour que la vie ne tombe pas aussi dans tous ces affres-là.
Voilà. Vos habitants, et j'aime bien cette formule, Anne Chemarin, ce sont qui ? Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux ?
Tout âge, confondu.
Tout âge, vous ne faites pas de statistiques pour le coup.
Non, tout âge, toute origine, vraiment toute personne, et y compris les jeunes, des gens qui sont... les jeunes, on pense que les jeunes possèdent l'outil numérique, non, pas forcément. Parce que s'ils arrivent à communiquer par leur smartphone, ils ne savent pas forcément le dire non plus. Donc, vous voyez, il y a toutes ces personnes-là. Et puis, ils se heurtent aussi. Malheureusement, je pense à un jeune en particulier qui s'était fait rouler dans la farine par son employeur, qui voulait faire une procédure prud'homale et qui venait se renseigner. Mais alors, je lui dis, il faudra un avocat. Et puis, la procédure, il faut assigner, etc. Ça lui semblait une telle montagne qu'il m'a dit, bon, allez, moi, je vais faire autrement, on sentait. Oui, mais voilà, donc démunis.
Donc des habitants de tous horizons, de tout âge, quand même beaucoup d'étrangers qui n'ont pas la maîtrise du français ou qui ont intériorisé peut-être une difficulté particulière.
Beaucoup d'étrangers, notamment une communauté malienne qui vient me voir très souvent. Et puis les personnes qui ont besoin d'établir leurs papiers, voilà. Alors, les dossiers de nationalisation, les dossiers de les cartes de séjour. Et on me demande très souvent, parce que là, c'est en ce moment, c'est un problème, mais terrible, les prises de rendez-vous avec la préfecture doivent se prendre sur le site internet de la préfecture. Voilà, maintenant. Avant, les gens étaient sur les trottoirs devant les préfectures et la file d'attente, on voyait où on en était. Maintenant, c'est comme... tout est impalpable maintenant. La file d'attente se fait sur Internet et on essaye de prendre des rendez-vous sur le site de la préfecture. Et là, on n'y arrive pas. Il y a des gens, ça fait des semaines et des semaines qui n'y arrivent pas. Donc, ils sont là. Ils n'ont pas réussi à renouveler leurs papiers. Ils sont sans papiers.
Donc, vous faites de la solidarité aussi ?
Ah forcément, c'est de la solidarité, de toute façon, oui,
autre
par
exemple,
nature.
Autre exemple de votre quotidien, Anne Chemarin, avec cette dame qui doit payer une amende parce qu'elle n'a pas pu justifier d'un titre de transport.
Oui. Le mois dernier, au mois de septembre, j'ai voyagé dans le train.
Oui.
Quand j'arrive à Roissy, il y a eu le contrôleur. Bon, moi, je cherche mon ticket parce que j'ai bien mon ticket, mais il est au fond de mon sac. Je cherche, je trouve. Il fait quand j'arrive, moi, j'étais en retard, je ne sais pas. Monsieur l'a dit, vous payez. Ou sinon, je vous mets l'amende. Moi, j'ai ma carte, je vous assure. Y a la deuxième option, vous mettez l'amende. De toute façon, je vais aller sauter, ça peut arriver. Quand je suis sortie, je regarde mon sac à nouveau, je vois mon ticket. Alors, j'appelle le matin à 9h pour régler le problème, j'en finis. Il commence à me dire, mais madame, je ne peux rien faire pour vous, vous payez l'amende. Si vous ne payez pas, c'est je ne sais pas quoi, le recours, je ne sais pas quoi. Je dis, madame, vous m'écoutez, ma carte, pourtant, je n'ai pas voyagé sans titre de transport. Moi, j'ai les preuves, j'ai mes factures, j'ai le truc, ma carte navigue, elle est là, je vous envoie. Et bien, si vous ne voulez pas payer, ce n'est pas mon problème. Il a coupé, j'ai coupé, je dis, ok, moi, je ne paye pas.
Anne Chemarin, vous vous souvenez de cette dame ? Elle avait l'air très en colère. Hein.
Ah, mais oui, mais elle était très bien, cette dame. Elle arrive effectivement en colère. Alors là, c'est la fureur qui rentre avec ce flot de paroles comme ça. Donc pareil, ce tumulte, mais en colère, mais légitimement en colère, parce que ce qui lui est arrivé, quand même. Elle est dans le RER avec son passe Navigo, donc c'est-à-dire son billet, hein, elle se fait contrôler. Elle dit au contrôleur, oui, mais je l'ai mon passe Navigo, mais je ne le retrouve pas. Ah, vous n'avez pas votre passe Navigo, allez, hop, je voudrais soit vous payez maintenant 50 euros d'amende, ou je voudrais ce PV, et après vous payerez 100 euros. Mais elle dit, elle plaide la bonne foi, mais je ne l'ai pas. Elle fait quelques pas, elle retrouve son passe Navigo, elle revient vers le contrôleur, elle dit, mais regardez, je l'ai, regardez, je suis de bonne foi. Ah, trop tard, madame, moi j'ai dressé procès verbal, je ne peux pas revenir en arrière.
Est-ce que vous suivez les dossiers ? Est-ce que finalement, cette dame a dû payer l'amende ou elle a été remboursée?
Alors, je continue parce que, excusez-moi, l'affaire n'en est pas restée là. Si vous avez une protestation à faire, vous appelez. Vous appelez de voilà tel numéro, la dame appelle, etc. Puis finalement, elle tombe sur une dame de la SNCF et qui lui dit ah ben non, trop tard, madame, vous payez les 100 euros. C'est-à-dire que cette dame plaidait sa bonne foi. Enfin, il y avait la preuve qu'elle avait son passe Navigo, qu'elle l'avait perdu à ce moment-là. Mais la SNCF lui dit ben non, vous aviez pas. Et c'est horrible. C'est-à-dire que cette dame était enfermée. Elle n'arrivait pas à sortir de ce carcan où sa colère s'est exprimée. Et alors là, elle est venue me voir. Je lui dis bon, bah, écoutez, on va faire un courrier. Voilà. On va faire le recours.
Alors, est-elle remboursée ou pas?
Mais je ne sais pas, parce que là, on n'a pas les résultats. Je vous le dirai la prochaine émission.
C'est l'émission à suspense. Dans votre activité d'écrivain public, Anne Chemarin, il y a aussi les récits de vie. Alors, ça, c'est toujours un grand moment et c'est toujours très, très, très beau de penser que souvent des gens en fin de vie, vieillissants ou très âgés, décident d'écrire leur vie, de vous confier leur vie pour qu'il reste une trace. Et il y a notamment dans votre livre un certain Jean B. Que vous appelez mon biographé.
Mon biographé, oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je fais aussi. Alors ça, c'est un autre exercice où je vais, je vais enregistrer. Je pars avec mon enregistreur, pardon. Et on a des entretiens qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, où les gens racontent leur vie et moi j'enregistre, je rentre chez moi, je fais une transcription, j'écris et après on relit. Voilà, faut que je rédige dans leur style aussi pour qu'ils se retrouvent effectivement.
Mais
ces témoignages.
Peut être ému quand on est écrivain public ou au contraire il faut mettre de la distance tout le temps?
Alors, il faudrait cette distance toute professionnelle, voilà. Mais bien sûr, je suis émue, bien sûr, je suis en colère, bien sûr, je suis toujours en empathie. Et très souvent, comme par exemple cette dame du RER, j'étais porteuse de sa colère, parce que j'ai trouvé ça tellement énorme, voilà.
Porter la colère des autres, coucher les mémoires des autres avant le grand saut dans le vide, souvent dans ce cas-là. Toutes les semaines, Lucie Bouteloup apporte sa plume et sa voix, elle aussi, à la compréhension, mais non pas tant des gens que de la langue française. Elle est un peu notre écrivain public à nous, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Les Français sont très préoccupés par le problème du prix de l'essence, par exemple, pour faire le plein. Mais vous, vous n'avez rien à faire.
Et oui Pascal, et si vous voulez connaître mon secret, je vous propose de fermer les yeux, de respirer profondément et de faire le vide. Une puce tout en décontraction, donc aujourd'hui autour de cette expression « faire le vide ». Mais peut-on vraiment faire le vide? Et le vide, qu'est-ce que c'est? Pour en parler, je reçois Étienne Klein. Il est philosophe des sciences et physicien. Je vous préviens, il faut suivre. Les enfants, en tout cas, ça ne leur fait pas peur. Le vide, ça leur parle.
Faire le vide, c'est-à-dire comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, essayer de l'oublier et de faire le vide dans ta tête. Peut-être que ça veut dire cacher tes émotions vide, comme si tu n'avais rien à l'intérieur, tu n'avais pas de joie, tu n'avais pas de tristesse, tu n'avais pas de colère.
Moi, je pense que faire le vide, ça veut dire quand on essaye de faire qu'il ne reste plus rien dans nous.
Bah, le vide, c'est un grand trou, par exemple, dans le sol qui est infini. Donc faire le vide, c'est enlever cette pensée de ton cerveau.
Mais on n'arrive pas à penser à rien parce que c'est impossible.
Par exemple, quand on dort, on fait le vide parce qu'on n'a plus aucune pensée, sauf quand on rêve.
Peut-être aussi que quand on veut faire le vide, par exemple de la tristesse, on enlève la tristesse, mais on garde les autres choses quand même. Si on ne veut pas faire le vide totalement.
Faire le vide, on sait tout ce que ça veut dire. Mettre de côté toutes ces pensées négatives, essayer de ne plus penser à rien du tout pour prendre un peu de distance, pour se relaxer. Pourtant, faire le vide, Étienne Klein, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Ben oui, parce que si on disait le vide, c'est absolument rien, c'est le néant. Alors faire le vide, ça voudrait dire faire le néant, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus rien, y compris celui qui fait le néant. Donc faire le vide, ça suppose que le vide, c'est quelque chose de particulier. Et en général, on dit le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais quand on a absolument tout enlevé, il ne reste plus rien. Et donc, ça contredit la phrase que je viens de dire. Donc, le vide, ce n'est pas rien, c'est quelque chose de particulier. Et donc, le vide, ainsi défini, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc, on a une définition circulaire. Pour définir le vide, il faut d'abord dire ce qui existe. Et parmi les choses qui existent, celles qu'on peut retirer. Et le vide, c'est ce qui reste quand on a retiré tout ce qu'on peut retirer. Et en général, il reste au moins l'espace. L'espace avec rien à l'intérieur.
L'espace pour réfléchir, justement. Voilà.
Faire le vide pour un physicien, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours quelque chose qui traîne dans l'espace. Si on est loin de la Terre, par exemple, il y a du rayonnement cosmique, il y a des rayonnements qui traversent l'espace. Donc l'espace n'est pas complètement vide. Puis il y a des rayonnements qui viennent du Big Bang, des rayonnements qu'on appelle résiduels, qui sont là et qu'on ne peut pas retirer. Donc le vide, c'est l'espace plus toujours quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Et c'est ça qui est intéressant. Et la phrase « faire le vide », je la trouve marrante parce qu'elle est paradoxale. « Faire », c'est un verbe d'action. Il faut faire quelque chose. Et on découvre que le « faire » qu'il y a à faire, ça consiste à enlever des choses. Donc c'est une sorte d'action négative qui est poussée par le verbe « faire ».
Oui, comme « faire néant » qui donne « fait néant, ne rien faire ».
C'est facile. C'est beaucoup plus facile de ne rien faire que de faire le vide, à mon avis.
En tout cas, peut-être que le simple fait d'avoir réfléchi à la notion de vide nous a permis de faire le vide, de penser à autre chose, en fait.
Oui, et puis il y a trois mots qui sont presque synonymes dans la langue française. Le néant, le vide et le rien. Et quand vous les mettez l'un après l'autre, ça fait cette drôle de phrase « je, néant, vide, rien ».
Ah, pas mal.
Alors, si on parle de méditation, faire le vide, ça veut dire ne pas s'occuper des idées qui traversent sa tête. Être indifférent à sa pensée.
Et souvent avec l'idée d'idées négatives.
Voilà, peut-être chasser les pensées tristes, les passions tristes, etc. Moi, j'ai essayé, ça marche pas du tout. Parce qu'une idée, c'est tellement rare que quand elle surgit en période de méditation, on s'arrête pour la saisir. Plutôt que d'être indifférent à son passage, comme on peut l'être à un nuage qui traverse le ciel.
Rien à voir avec l'expression « se faire vider ».
Se faire vider, être vidé, ça veut dire être crevé, être débarrassé de son énergie. Donc j'ai été vidé de ma force vitale, disons. Vidé, ça veut dire être viré, non ?
Être vidé, absolument, ça veut dire être viré, se faire vider de son lycée parce qu'on a fait une bêtise qu'on a séchée, quoi.
On est vidé par un videur.
On est vidé par un videur qui vous expulse de la boîte de nuit, exactement.
Il y a quand même des gens dont c'est le métier, vidé.
Il y a pas mal d'expressions avec le mot vide. Hein. Se sentir vide, parler dans le vide.
Parler dans le vide, ça veut dire ne pas être écouté, ne pas être entendu.
Oui, puis il y a des gens aussi qui ont peur du vide. C'est ce qu'on dit des personnes qui parlent énormément.
Ou en alpinisme. La peur du vide, c'est...
Ah oui, c'est encore autre chose.
Mais la peur du vide, c'est pas la même chose que la peur de tomber. Et c'est pas non plus exactement la même chose que le vertige.
Merci Étienne Klein pour votre éclairage nécessaire. C'est sûr, vous n'avez pas parlé dans le vide sur nos ondes. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître 150 expressions pour ramener sa science et que cet ouvrage est paru aux éditions du Robert. Merci encore et à très bientôt autour d'une nouvelle expression.
Merci à vous et à bientôt.
Merci Étienne Klein, merci Lucie. Anne Chemarin, j'ai l'impression que faire le vide n'est pas vraiment votre truc. Écrivain public, vous emmagasinez plutôt les expériences, les rencontres, les courriers, les lettres. Est-ce que vous savez d'où vient ce désir pour les autres, ce désir de solidarité, puisqu'on utilisait ce mot tout à l'heure?
Ce qui m'intéresse, c'est l'écrit. Alors là, c'est vrai que c'est de l'écrit, c'est la littérature administrative qu'on me demande de rédiger. Maintenant, pour les récits de vie, les biographies, c'est plus proche de la langue, de la littérature que j'essaye de restituer. Ce qu'on me demande là, c'est de restituer le réel, le tumulte du réel. Voilà. Et ce qui m'intéresse, oui, c'est l'écrit, la littérature. Et d'ailleurs, j'ai même mon journal des écrivains que j'ai l'habitude de lire, les Gracq, Michon, Bergougnou, beaucoup Bergougnou, bien sûr.
Et que vous aimez.
Et que j'adore.
Merci beaucoup, voilà. Anne Chemarin. De Vise en Ville, journal d'un écrivain public, est édité chez L'Harmattan. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain et sur les réseaux sociaux.